Bonjour, Philippe Blanchet, professeur à l'Université Rennes 2, sociolinguiste, a présenté à Nantes, dans le cadre des mardis d'Attaque 44, son livre « Les mots piégés de la politique » paru aux éditions textuelles. L'idée de départ.
Oui, l'idée c'était de partir de méthodes qu'on utilise en recherche universitaire, dans ma discipline en sciences du langage, pour analyser les discours de différentes façons, il y a différentes méthodes, et puis de mettre ça à disposition du grand public, parce qu'on voit bien qu'il y a des phénomènes de manipulation dans la façon dont les discours sont tenus, dont les mots sont employés. Alors moi, je me suis focalisé sur un type de manipulation, parce qu'il y a toute une série de méthodes, et les communicants politiques professionnels savent très bien faire avec. Et donc l'idée, c'était de prendre quelques exemples qui étaient, au moment où j'ai écrit les textes, vraiment en pleine actualité. Alors il y en a un qui était déjà un petit peu retombé, c'était le fameux « Je suis Charlie ». Et puis il y avait les questions sur la laïcité, les questions sur les incivilités, etc. Et donc j'ai voulu prendre ces quelques mots et montrer comment, quand les politiques et les médias qui travaillent avec eux les utilisent, ils imposent aux gens un certain nombre de connotations et de choses qui passent pour des évidences non discutables. Et donc je voulais montrer comment on peut décortiquer ça, quoi, pour ne pas se faire entraîner dans cette pente redoutable.
Si vous le voulez bien, vous allez prendre au hasard. Enfin, c'est vous qui choisissez un exemple.
Alors, je vais en prendre un très bref que j'utilise pour présenter le livre dans l'introduction. Je prends l'exemple de cette formule qui sert à parler des gens d'origine immigrée. Les politiques disent souvent « issus de la diversité ». Et je montre qu'en disant « issus de la diversité », on fait semblant de vouloir ne pas faire de différence, mais qu'en fin de compte, on renforce des différences parce qu'on pointe ces gens comme étant différents et comme étant les seuls qui seraient marqués par de la diversité par rapport au reste de la population française. Or, évidemment, le reste de la population française, il est tout aussi diversifié. Il y a des Bretons, des Basques, des grands, des petits, des ouvriers et des paysans, et la diversité est déjà là. Mais en disant « ils sont issus de la diversité », c'est une façon de faire semblant de les prendre en compte et en même temps de continuer à les marginaliser. Voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'essaye de montrer.
J'aurais cru que vous auriez choisi le premier chapitre, « Je suis Charlie ».
Oui, mais il est long à décortiquer parce que dans « Je suis Charlie », il y a toute une série d'implicites et donc ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et du coup, ça invitera les gens à lire le livre.
Ah, quelle promotion. Qui sont à la source, les hommes politiques et les journalistes ?
Oui, sans qu'on sache souvent trop lesquels les ont d'abord mis sur le circuit, mais on voit qu'il y a un effet de renforcement en boucle, hein, de discours politique repris par les médias. Et moi, l'une des choses qui continue à m'étonner beaucoup, ça m'étonne de moins en moins, hélas, mais à quel point beaucoup de journalistes, de chroniqueurs, etc., remettent pas en question les mots qu'emploient les politiques et les réutilisent, alors soit parce qu'ils réfléchissent pas, soit par complicité, parce qu'ils sont d'accord avec la manipulation en question.
Vous avez en face de vous, j'espère que vous le reconnaissez, un journaliste.
Oui, absolument.
Qui a oscillé entre migrants et réfugiés. Et en fonction des gens compris dans le milieu associatif, c'était pas évident.
Oui, mais alors c'est déjà très bien de se poser la question, parce qu'il y a heureusement aussi des journalistes qui font attention à leur matériau principal, qui est quand même le matériau linguistique. Mais bon, ça, c'est un bon exemple.
Pas dans le livre.
Non, il n'est pas dans le livre, mais on pourrait le traiter. Il y a d'autres alternatives. Il y a aussi demandeurs d'asile, etc. Hein. Mais c'est pas simple, parce qu'on voit bien que selon qu'on dit migrant ou qu'on dit réfugié, on dit autre chose en même temps. Et c'est ça l'idée du bouquin, c'est de montrer ce qu'on dit en même temps en employant un mot sans le dire.
Mais il n'y a pas un mot à retenir.
Ça dépend de ses convictions, des objectifs qu'on a, de qui on veut convaincre de quoi. Alors, sur cet exemple-là, moi, allez, je vais me risquer. Personnellement, je préfère dire réfugié, parce que je pense que quand on dit réfugié, on montre qu'il s'agit de personnes qui cherchent de l'aide, et l'aide, humainement, ça ne peut pas se refuser. Tandis que quand on dit migrant, on insiste sur le fait que c'est des gens qui changent de lieu, comme s'ils n'avaient pas des raisons qui les poussent à changer de lieu, et comme si nous, dans les sociétés dites d'accueil, qui est là, sont peu hospitalières, on n'avait pas autre chose à regarder que simplement le fait que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est surtout des gens qui ont besoin d'aide. Et donc, voilà, moi je préfère dire réfugiés que migrants. Mais je peux comprendre aussi que pour d'autres raisons, des gens fassent d'autres choix.
Vous êtes d'accord que pour une langue vivante, il y a des glissements de sens naturels.
Alors oui, c'est normal, les mots changent de sens. D'ailleurs, c'est les usages qui donnent les sens aux mots. Alors l'une des choses que j'essaye de montrer, c'est qu'il faut faire la différence entre le sens potentiel qu'il y a dans un mot, puisque j'appelle la signification, c'est-à-dire comment on charge le mot de sens complémentaire dans les usages qu'on en fait, dans un contexte, avec certaines personnes, à un certain moment, dans un certain lieu, etc. Évidemment, tout ça fait se transformer la langue. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait le bon sens du mot et les mauvais sens du mot. Il s'agit de montrer quels sont les sens cachés que véhiculent les usages de certains mots.
Le mignon du roi n'est pas le mignon d'aujourd'hui.
On est tout à fait d'accord, oui, le contexte social, etc. a changé, donc bien sûr, les mots changent de sens et c'est normal.
Le fait d'avoir choisi précisément des mots comme communautarisme, je suis Charlie, radicalisation, oui. Ça vous renvoie à la même conclusion. On stigmatise un groupe. Les musulmans. Je me suis demandé pourquoi ce choix et pourquoi on arrive toujours à cette même conclusion.
Alors, je vais nuancer un tout petit peu. La conclusion, c'est que ceux qui sont stigmatisés par les mots qu'on utilise, c'est toujours les jeunes, les pauvres, les ouvriers, les banlieusards. Et parmi les jeunes, pauvres, ouvriers, banlieusards, il y a souvent des gens d'origine étrangère qui sont parfois musulmans et donc qui sont aussi visés. C'est l'entrée qui a abouti à cette conclusion. Ce n'est pas parce que je visais la conclusion. J'ai choisi des mots ou des expressions qui gravitent dans le discours national français, qui sont des mots qui servent à construire le discours d'unité nationale, d'identité nationale, que ce soit radicalisation, laïcité ou je suis Charlie, qui sont vraiment des mots à partir desquels on essaye de construire les piliers d'une unité nationale. Et je montre que, enfin j'essaye de montrer en tout cas, que ces mots-là disent aussi autre chose et que notamment ceux qui disent... C'est une division, au lieu d'unir, ils divisent, et que c'est une division entre ceux qui seraient le modèle et les gens qui seraient déviants par rapport au modèle et qu'on stigmatise et qu'on met à part. Et évidemment, les conclusions auxquelles on arrive, c'est que les gens qu'on stigmatise et qu'on considère comme déviants, ben, ce n'est pas les dominants, ce n'est pas les classes dominantes. Donc, ben, c'est les pauvres, c'est les ouvriers, c'est les jeunes, c'est les précaires, c'est les étrangers, c'est les musulmans, c'est les femmes aussi, etc.
J'ai retenu plutôt musulman. Alors, il faudrait que j'aille interroger mon psychanalyste.
Non, mais c'est vrai que ça fait partie, ben, avec radicalisation, avec laïcité, avec Je suis Charlie, on voit bien que le discours national se construit par opposition à... c'est le système du bouc émissaire. Il y a celui qui est différent et qui sert à montrer qui nous sommes parce que nous ne sommes pas lui. Et évidemment, depuis quelques années maintenant, même quelques décennies, ce bouc émissaire, c'est des gens qui sont d'une religion qui d'ailleurs est très répandue. Il n'y a pas d'unité dans ces gens-là. On fait comme si c'était une communauté. Il n'y a pas de communauté musulmane. C'est des gens qui ont cette religion et on leur assigne une identité de gens déviants, de gens différents qui nous permettent de dire qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Enfin, dans le discours que ces gens tiennent. C'est pas le mien, évidemment.
Pour cultiver une richesse de vocabulaire, pourquoi ne pas accepter le glissement du sens radicalisation, qui pour désigner quelque chose qui est tout à fait concret, qui ouais. s'appelle de l'embrigadement, et le décliner, trouver un autre mot pour d'autres cas.
Alors oui, je comprends, la question s'appuie sur le fait que l'une de mes conclusions, c'est que radicalisation, c'est vraiment pas le bon mot pour désigner les phénomènes dont on parle et que l'emploi de ce mot est dangereux parce qu'il tend à stigmatiser toute forme de radicalité alors qu'il y a des radicalités qui sont nécessaires et bienvenues. Alors oui, bien sûr, on pourrait, je suis d'accord avec l'idée en général, on pourrait dire bah, ce mot-là, les gens s'en sont emparés, lui donnent un autre sens et pourquoi pas. Sauf que, pour l'instant, ce mot-là, il est toujours corrélé à d'autres usages, d'autres sens, par exemple à la notion de radicalité, qui n'est pas forcément au sens de la radicalisation de gens qui sont embrigadés pour commettre des actes terroristes. Et donc, tant qu'il y a une partie du sens qui touche beaucoup plus de gens et des gens qui ne devraient pas être stigmatisés ou qui ne devraient pas être pointés du doigt, l'usage de ce mot fait problème. Le jour où il ne voudra plus dire que embrigadement religieux, pas forcément musulman d'ailleurs, il désignera seulement des fous de Dieu et plus du tout d'autres formes de conviction. Alors là, d'accord, mais tant qu'il désigne d'autres formes de conviction, ça a tendance à jeter l'opprobre aussi sur les gens qui ont ces autres formes de conviction.
C'est pas l'appropriation, l'exploitation usuelle qui impose la nouvelle définition ? C'est peut-être trop tard, non ?
Oui, mais en même temps, il y a des tensions dans la société. Et donc, il y a des gens qui veulent utiliser ce mot avec ces usages-là. Et puis, il y a des gens, d'ailleurs, je cite des exemples dans mon texte, qui disent, mais non, radicalisation, ça veut pas du tout dire ça. Nous, on se revendique radicaux et on n'est pas du tout d'accord avec ce type de terrorisme. Et donc, il y a des gens qui essayent de tirer le mot dans un sens, puis il y en a qui essayent de le tirer dans un autre. Et on ne sait pas qui c'est qui va l'emporter. Alors, effectivement, les mots changent avec les siècles. Un jour, ça aura sans doute changé. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas consensus là-dessus et que puisqu'il n'y a pas consensus, il y a des usages qui sont divergents et qu'il faut se méfier, surtout quand on en parle au singulier. Parce que du coup, on vous fait croire que tout le monde est d'accord sur le mot et sur son sens, alors que les gens ne sont pas tous d'accord. C'est la même chose avec laïcité, qu'on emploie tout le temps au singulier, on dit la laïcité, alors qu'il y a des conceptions très différentes de la laïcité. Et pour l'instant, il n'y en a pas une qui l'a emporté sur l'autre.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'est approprié ce mot avec ce sens, ou ces mots avec ces sens ?
Parce qu'on est dans du discours d'embrigadement politique, on est dans du discours de manipulation, et donc on monte en épingle un certain nombre de phénomènes dont on veut faire croire qu'ils sont très très importants et très dangereux dans la société française, et donc puisque finalement, au fond, c'est relativement creux ce qui est derrière. Hein. Je monte par exemple avec incivilité, où l'analyse, je rapporte l'analyse que fait Fabrice Dume de la notion de communautarisme, qui est vraiment une notion complètement creuse et qui s'appuie sur rien, mais on essaye de faire croire que ça existe. Alors, comme justement ça n'existe pas et que c'est pas du tout ce dont on nous parle, ben on a une stratégie publicitaire qui est l'envahissement de l'espace médiatique et de l'espace discursif, parce que du coup, on va faire croire, on va convaincre les gens qu'il y a quelque chose qui se passe. En nommant, on fait croire que ça existe. L'usage du mot impose implicitement une pseudo-réalité que le mot désignerait.
Moi qui suis un usager des transports en commun, pendant longtemps j'étais vidéo surveillé et maintenant je suis vidéo protégé.
Absolument. Mais voilà, c'est un très bon exemple. On voit bien comment on essaye de mettre une connotation positive à un phénomène qui, par ailleurs, est aussi un phénomène négatif. Et donc quand on vous dit, moi aussi, je remarque tout le temps ça, hein, qu'on est protégé par la vidéo, en fin de compte, mon analyse à moi, c'est qu'on est surveillé par la vidéo, que cette surveillance est dangereuse pour nos libertés fondamentales et pour l'organisation et le futur de la société. Mais voilà, c'est un très bon exemple. Hein. On retourne... Alors, c'est pas tout à fait ce sur quoi je travaille. Hein. Moi, je travaille sur les significations cachées embarquées, mais le fait d'utiliser un mot à l'inverse de ce dont on parle. Vraiment, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les discours politiques. Je vous donne un autre exemple. Hein. Vous avez beaucoup entendu parler à une certaine époque d'une loi qui était une loi sur l'autonomie des universités. En fin de compte, son vrai nom, c'était loi sur la responsabilisation des universités. Et son objectif était de réduire l'autonomie des universités. Mais les politiques sont très forts pour faire vendre quelque chose avec une étiquette qui est l'inverse de ce qu'il y a dedans. Au fond, c'est un procédé de tromperie. Et si c'était des commerçants, on les poursuivrait au tribunal pour escroquerie.
C'est pas de la communication bien pensée, rassurer le peuple.
C'est de la communication bien pensée. Je suis pas sûr que l'objectif principal soit de rassurer le peuple, même si ça peut parfois, le rassurer aussi. Je pense que l'objectif, c'est surtout d'imposer un certain projet de société, une vision de la société, de faire en sorte que les gens adhèrent à ce vers quoi on veut les amener.
Il n'y a pas de proposition d'alternative, de mots qu'il faudrait remplacer.
Je fais quelques propositions quand même. Hein. Par exemple, je propose de remplacer radicalisation par fanatisation et radicaliser par fanatique, hein, qui me paraît un mot beaucoup plus adapté, qui est prévu pour ça, etc. Alors, on ne peut pas faire des propositions pour tout, y compris parce que ce qui compte, c'est comment les gens vont inventer des mots et vont s'approprier les discours. On n'est pas là, je ne suis pas là pour, d'une certaine façon, pour donner des leçons, mais pour donner des pistes qui permettent de se méfier, voilà, et de s'approprier le discours, d'inventer son propre discours plutôt que de subir celui qu'on nous impose. Thank you.
Philippe Blanchet, auteur des mots piégés de la politique, paru aux éditions textuelles, est l'invité du magazine. À propos de la féminisation du nom des métiers.
Il faut se méfier aussi sur la question de la féminisation des noms de métiers, qui est obligatoire en France depuis longtemps d'ailleurs. Les solutions ne sont pas simples à trouver, parce que en partant d'une très bonne intention qui consiste à dire on va rétablir l'égalité de traitement et de considération des hommes et des femmes, on peut proposer des innovations de vocabulaire qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, est-ce qu'on va dire, c'est un grand classique, hein, comment est-ce qu'on met « c'est un professionnel » au féminin ? Ça donne « c'est une professionnelle ». Alors, les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, peut-être que ça ne signifie plus ça, mais dans ma génération et celle d'avant, ça désignait une prostituée. Donc, on ne peut pas simplement féminiser un professionnel en une professionnelle. Ça nécessite une réflexion sur la façon dont le mot a une histoire et il est pris dans les usages et la réception qu'en ont les gens. C'est jamais simple, finalement, ces questions-là. Et les propositions ne sont pas simples à trouver.
Alors, qui désigne ? C'est le patron, l'employeur ou c'est l'employé ? Je prends un exemple. Je connais des familles qui emploient des femmes de ménage, mais pour des parents qui ont des soucis de santé. Et quand on leur dit qu'elles sont des femmes de ménage, non, nous sommes des assistantes de vie. C'est elle qui décide.
Alors, moi, je trouve d'abord, comme principe fondamental, que c'est normal que ce soit les gens qui décident de comment on va les nommer. C'est une identité professionnelle. C'est la personne concernée qui doit pouvoir l'affirmer, la construire, la nommer. Après, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des rivalités, des enjeux de pouvoir, etc. C'est qui va l'emporter, c'est-à-dire qui va faire triompher sa désignation, sa nomination, par rapport à d'autres mots qui sont proposés par d'autres. Et sur une histoire comme ça, c'est pas gagné. Est-ce que c'est l'employé ou les patrons qui gagnent ? L'histoire jusqu'à présent nous a montré que ceux qui sont puissants économiquement, par exemple, sont aussi puissants sur les mots.
Vous rédigez en écriture inclusive ?
Oui.
Ça me perturbe.
Alors, j'utilise... D'abord, il faut dire ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Les gens croient que l'écriture inclusive, c'est juste le système d'alternance de marques du féminin et du masculin.
C'est
le mot global. Non, mais c'est pas que ça. L'écriture inclusive, c'est toutes les formes linguistiques qui permettent d'équilibrer la présence du féminin par rapport au masculin quand on désigne des personnes humaines. Hein, c'est ça l'idée. Donc, des femmes sur les hommes. Alors, j'utilise parce que, d'abord, dans mon université, c'est une politique collective qui a été décidée, qui est officielle, que nous féminisions et que nous respections l'égalité homme-femme, y compris dans la langue, dans tous nos textes, y compris les textes administratifs de mon université. Et parce que derrière, je trouve que c'est un beau projet que de rétablir l'égalité des hommes et des femmes, y compris en ne laissant pas croire que la langue est neutre et que les discours sont neutres. Les discours sont chargés historiquement, ils sont chargés idéologiquement, politiquement. Et donc, moi, je dis tout le temps, il et elle, les étudiants et les étudiantes. Et je trouve que c'est un juste discours qui permet de construire ou de reconstruire une égalité.
Ça ne me dérange pas de lire les étudiants, les étudiantes. Ce qui me dérange, c'est avec un petit point, un petit « e », parce que ça, j'arrive pas à le lire.
C'est juste une question d'habitude, parce que vous n'êtes pas embêté par le fait que les mots français sont surchargés de lettres qui ne servent à rien, d'accents qui ne servent à rien. Mais on vous y a habitué, et donc vous trouvez normal qu'il y ait toutes sortes de lettres en plus qui ne sont pas nécessaires pour écrire le français, souvent des consonnes. Hein. Voilà, on écrit forêt, E, accent circonflexe, T. Ça ne vous gêne pas qu'il y ait un circonflexe et un T qui ne servent à rien pour transcrire le mot forêt. C'est parce qu'on a appris à lire ça. Donc les générations futures qui apprendront peut-être à lire avec quelques petits points supplémentaires pour marquer la féminisation, trouveront ça parfaitement normal et ils seront complètement habitués. Mais je conçois que ça surprenne au début, bien sûr. Hein. C'est juste une question d'habitude.
Je m'y habitue. Vous ne comptez pas les fautes d'orthographe quand on vous remet des copies ?
Ça dépend. Principalement, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent plutôt que la façon dont ils le mettent en forme graphique. La façon dont ils le mettent en discours, oui, c'est important parce que ça contribue au sens, à la construction de l'adhésion du lecteur ou de la lectrice, etc. Après, je pense qu'on a un système d'écriture qui est tellement surchargé, tellement piégeux, tellement absurde qu'il faut une marge dite d'erreur
d'erreur,
parce que la vigilance absolue à 100%, c'est presque impossible. Si on avait un système intelligent comme le système de l'espagnol, de l'italien, du portugais, ben, la question ne se poserait pas, parce que la faute d'orthographe n'existe pas dans ces langues-là. On n'a pas de chance, on a un système qui tend à faire se tromper les gens. Donc moi, j'estime que les gens ont droit à une marge d'erreur, y compris mes étudiants et mes étudiantes. Moi, j'estime que les gens ont droit à une marge d'erreur, y compris mes étudiants et mes étudiantes. Alors évidemment, si c'en est truffé, je leur dis, vous allez avoir un problème dans la société. À la rigueur, moi, ça ne me gêne pas trop. Mais faites attention, il va falloir trouver des solutions. Mais enfin, s'ils me rendent un mémoire de 100 pages et qu'il y a 10 fautes sur 100 pages, c'est-à-dire sur des milliers de mots, le taux de faute est tellement bas qu'il est négligeable.
Par rapport à votre intervention, qu'est-ce que j'ai omis ?
Ce que je vais montrer d'abord, c'est quels sont les procédés majeurs de manipulation par le discours. Le procédé sur lequel moi je me suis concentré, et je vais prendre des exemples qui ne sont pas dans le livre, des exemples récents de mots qui circulent, parce que quand on a l'oreille à ça, on en entend tout le temps. Dès qu'on écoute les informations, les journalistes le matin, les hommes politiques qu'ils interviewent, paf, on dit « ah ben voilà, ils emploient ce mot-là » et je peux analyser du discours embarqué dans le mot en question. Donc je veux juste montrer aux gens que c'est tout le temps autour de nous avec des mots tout bêtes que les gens entendent et qui ne sont pas seulement les mots qui sont dans le livre.
En conclusion, un mot qui n'est pas dans le livre ?
Oh ben, je vais en prendre un qui est la façon dont on a désigné les deux grandes positions concernant le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie Kanaky, les politiques et les journalistes, de façon quasiment unanime, et je dis quasiment parce que je ne les ai pas tous écoutés, ont décidé qu'il y avait d'un côté les loyalistes et de l'autre côté les indépendantistes. Or, quand on dit loyaliste, on qualifie ça d'une attitude positive, parce qu'être loyal, c'est une qualité. Donc c'est une façon de prendre parti, de dire que les bons, c'est ceux qui sont pour la France, et les mauvais, c'est ceux qui sont pour l'indépendance. Ça nous dit ça, ce simple mot nous dit ça. Or, on pourrait parfaitement renverser la proposition et dire qu'il y a d'un côté les loyalistes, de l'autre côté les colonialistes. Les loyalistes, c'est ceux qui sont loyaux à la Kanaky et au peuple kanak, et de l'autre côté, ceux qui veulent rester au pouvoir contre eux venus d'ailleurs. Donc voilà, c'est une façon de montrer que dans des mots tout bêtes qu'on entend tout le temps, il y a des prises de position très fortes qui sont cachées. Et ça veut dire que quand un mot est employé, il faut savoir de quel point de vue il est employé pour ne pas se faire manipuler par l'humour.
Pour conclure, un petit bonus. C'est le bonus du livre.
Le bonus du livre à la fin, oui, parce que quand j'ai fini le livre, c'est le truc qui est sorti, c'est le fameux équité à propos des temps de parole pendant les périodes de campagne électorale. Alors, j'ai évidemment très vite repéré, y compris parce que, comme je travaille sur les phénomènes de minorité linguistique, etc., la notion d'équité est une notion que je travaille depuis longtemps. Et j'ai évidemment tout de suite été frappé par la manipulation. Alors, les parlementaires, c'est-à-dire ceux qui ont la majorité, ont décidé de répartir le temps de parole autrement, de telle sorte qu'ils aient plus de temps de parole que les autres. Il ne faut quand même pas oublier qui a pris la décision. Et donc, ils ont décidé que le temps de parole serait proportionnel aux résultats aux élections précédentes. Bon, c'est déjà une façon de confisquer la parole des opposants. Mais surtout, le pire, c'est qu'ils ont appelé ça l'équité. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire que c'était quelque chose de bien, parce que être équitable, ça a une connotation positive. Or, l'équité, c'est exactement le contraire. L'équité, ça consiste à ne pas traiter tout le monde de la même façon. Ça consiste à rétablir l'égalité en accordant plus à ceux qui ont moins. C'est un vieux principe de philosophie politique. Et donc, si on mettait en place une équité du temps de parole, moins les gens ont eu de voix, plus ils auraient de temps de parole. Et inversement. Or là, on nous a manipulés, on nous a bananés une fois de plus avec un mot positif qui servait juste à ceux qui ont déjà le pouvoir à avoir plus de paroles pour le Conseil.
Merci à Philippe Blanchet, auteur des mots piégés de la politique, paru aux éditions textuelles, pour sa libre participation à ce programme.
Il y avait une autre solution, c'était la précédente, qui était l'égalité du temps de parole. Mais en même temps, si on veut qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles forces qui émergent, il faut bien leur permettre. C'est légitime que de nouveaux courants d'opinion émergent. Donc si on les empêche de communiquer, de se faire entendre et d'emporter l'adhésion, ben, il n'y aura jamais de renouvellement. Et par ailleurs, c'est quoi la légitimité ? Est-ce que les vieux partis qui trustent le pouvoir et qui finalement n'ont pas fait grand-chose de bien sont plus légitimes pour prendre la parole pendant une campagne électorale que de nouveaux partis qui veulent essayer de faire des choses nouvelles. Voilà. Donc il faut trouver, je suis d'accord que ce n'est pas simple, il faut trouver un système qui permette de répartir les temps de parole d'une façon qui soit juste, sans tomber dans un excès de monopole, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Notre président fait partie de... Quel parti ?
Lui, il a su utiliser les voix des partis dominants pour prendre leurs espaces de parole et pour pouvoir capter ça pour lui. Voilà, mais comme par hasard, il ne s'est pas présenté à travers... Il n'a pas commencé par créer un tout petit parti qui n'avait pas de temps de parole. Il a commencé par noyauter un grand parti qui avait du temps de parole. Et puis après, il s'en est servi.